Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur votre radio locale, sur Radion. Voici Wagon Livre, votre émission littéraire, et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec sans doute aujourd'hui la plus jeune invitée de l'année 2019 à bord de cette émission, puisque elle n'a que 23 ans. Elle signe son troisième roman aux éditions Stock, un roman très récent qui est sorti en librairie. On l'a vu à la télévision, elle a été, je trouve, assez bien médiatisée. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur de la voir en face de nous, Lynn Papin. Bonjour Lynn.
Bonjour.
Lynn Papin, ce troisième roman a pour titre « Les eaux des filles ». Alors les deux premiers avait pour titre « L'éveil ». C'était en 2016, oui. Roman qui a reçu le prix de la vocation.
Exactement.
Et puis en 2018, vous n'arrêtez pas, une véritable poule pondeuse littéraire, vous avez toujours chez Stock fait paraître Tony. Oui. Et donc voici « Les eaux des filles ». Alors, en fait, Lynn Papin, pour ouvrir cette émission, est-ce que je peux vous demander en quelques mots de vous présenter à nos auditrices et auditeurs ? Parce que, bien sûr, je pourrais lire la quatrième de couverture, mais je vous laisser le soin peut-être de nous glisser votre carte de visite.
Alors, pour me présenter en quelques mots, je suis née à Hanoï en 1995. Donc j'ai grandi au Vietnam jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis, mon père étant français et ma mère vietnamienne, nous sommes arrivés en France ensuite. Et j'ai passé donc la deuxième moitié de ma vie en France. J'ai toujours écrit, j'ai toujours lu aussi, parce que j'ai grandi dans une famille où on adorait les livres et la lecture était vraiment au centre des discussions, des habitudes. Et donc j'ai toujours eu pour rêve de d'écrire des romans. Et j'ai eu la chance d'être publiée à 20 ans chez Stock pour mon premier roman « L'éveil ». Et donc, c'est pour ça que, comme vous dites, une poule pondeuse, c'est-à-dire que ça m'a encouragée à continuer ma passion et à écrire des romans.
Et la quatrième de couverture de votre dernier roman, donc chez Stock, précise que vous vous consacrez à l'écriture, au dessin et au cinéma.
Oui, parce qu'en fait, j'ai fait des études, j'ai fait ce qu'on appelle une prépa littéraire Hippocagne-Cagne. Ensuite, j'ai fait un master en fait, d'histoire de l'art, où j'ai étudié beaucoup la peinture, mais aussi le cinéma. Et donc, ce que j'aime bien sûr écrire et lire, mais j'aime aussi beaucoup les autres arts que sont la peinture et le cinéma. Donc,
Merci Lynn Papin pour ces précisions biographiques pour ouvrir ce numéro de Wagon Livre que nous allons passer avec vous. Jeunesse et fraîcheur aujourd'hui au programme, encore que votre dernier roman, par certains côtés, a des aspects plutôt sombre que joyeux, quand bien même ce roman pourrait être un conte, parce que le terme de conte revient très souvent dans votre roman. Vous parlez même de conte de guerre et d'amour, donc l'amour, oui. C'est tout de suite un petit peu plus joyeux. Conte de guerre aussi, parce que vous rappelez que le Vietnam est un pays qui a été passablement meurtri par plusieurs guerres. Et puis il y a la narratrice. Est-ce qu'elle vous ressemble ? Je pose la question qu'il ne faut pas poser. Je dirais, quand on lit un roman, il ne faut pas chercher à plaquer avec une quelconque réalité biographique.
C'est ça. Je pense que le roman, ce qui m'a en tout cas plu, c'est que les lecteurs de ce roman m'ont parlé de leur histoire à eux, une fois qu'ils l'avaient terminé. Et donc, ils ne m'ont pas parlé de mon histoire à moi. Et donc, pour moi, c'est ça. C'est la narratrice. Ça peut être moi, mais chacun peut s'identifier, chacun peut s'imaginer. Le roman, c'est l'imagination. Donc, est-ce que c'est vraiment moi ? Je ne sais pas si c'est tellement vraiment intéressant, la vérité de l'histoire. Alors après, c'est vrai que la narratrice s'appelle Lynn, Et
elle a aussi une maman viette, un papa français,
bien
étonnamment
sûr,
comme vous.
C'est évidemment tiré de mon histoire. Après, puisqu'elle est écrite, le roman est... C'est un roman, mais c'est évidemment très proche de moi. Et en fait, dans cette histoire, je m'adresse à la petite fille que j'étais. Et au début de l'histoire, donc, la narratrice revient dans son pays d'origine, elle prend l'avion et retourne au Vietnam. Et en prenant le taxi de l'aéroport à la ville, elle se retourne et sur la banquette arrière, elle voit en fait la petite fille qu'elle était à 5 ans, la petite fille qu'elle était à 10 ans, la petite fille qu'elle était à 15 ans, comme des poupées russes. Et je pense que c'est vraiment une histoire sur l'enfance aussi et sur tous ces passages douloureux ou joyeux de l'enfance qui font qu'on devient, qu'on grandit et qu'on devient la personne adulte. Puis on finit jamais d'évoluer, c'est tout le temps comme ça.
N'est-ce pas justement un peu difficile, quand on est écrivain, de mettre un peu de soi dans une histoire tout en l'embellissant ou en noircissant peut-être les faits par le biais de la fiction? C'est-à-dire, n'est-ce pas difficile le passage de la personne au personnage? Quand bien même il y a ce jeu de pronoms, le je, le tu, l'interpellation, on sent bien que là, la narratrice interpelle Lynn et on voit bien qu'il y a une sorte de jeu de miroir aussi dans ce, oui, dans ce roman. C'est toute la part fictive et quelque part aussi ce jeu de miroir. Miroir, miroir, vous feriez mieux de réfléchir, disait Cocteau dans certains de ses films notamment.
Ce livre, en fait, je l'ai vraiment écrit pour comprendre. Alors, l'histoire commence... c'est une petite fille de 15 ans qui est très maigre et qui se laisse mourir. Et pour moi, l'écriture de ce livre commence par ça. Et en fait, je me demande pourquoi cette petite fille, qui était donc moi, mais qui a 15 ans et qui est le personnage de mon livre, pourquoi s'était-elle laissée mourir? Pourquoi ne voulait-elle plus vivre? Et à partir de là, j'écris pour comprendre qui est sa mère, qui est sa grand-mère, d'où est-ce qu'elle vient, quelle est son histoire et quelles sont les fractures qui ont pu pousser un enfant à ne plus vouloir vivre alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Et donc, c'est vraiment un livre que j'ai écrit sans forcément chercher la vérité des choses, parce que je ne pense pas qu'il y ait une vérité. Et je pense que si quelqu'un d'autre avait écrit ce livre, il l'aurait écrit autrement. Mais là, disons que mon fil conducteur, c'était vraiment la transmission, ce qu'on peut recevoir de nos parents et qu'eux-mêmes ont reçu de leurs parents, de nos grands-parents, sans forcément le savoir, en fait, comme une mémoire invisible, quelque chose qui pourrait nous peser dessus sans qu'on soit tellement au courant de ce que c'est.
Alors, mémoire de la famille, mémoire aussi d'un pays que cette petite fille, oui, donc la narratrice, est contrainte de quitter. C'est un exil forcé parce que, oui, les parents choisissent d'aller en France pour des raisons professionnelles et puis aussi parce que le père de la narratrice a peut-être fini de connaître complètement ce merveilleux pays pour, oui, lequel il s'est complètement entiché et très jeune d'ailleurs. Donc c'est le retour en France, d'abord dans une petite ville de Touraine où c'est l'ennui, c'est la France froide, c'est un décalage culturel, linguistique qui est gigantesque pour une petite fille qui est arrachée aussi de nombreuses femmes qui ont beaucoup compté dans sa vie, sorte de cocon familial.
C'est ça.
Surtout la grand-mère.
Oui, et c'est en fait, j'explique ce déménagement, tout simplement, des yeux d'un enfant, parce que le même déménagement en fait, du Vietnam en France, vu par un adulte, n'est peut-être pas si dramatique, parce que les adultes comprennent ce qui se passe, ils savent bien où est-ce qu'ils se situent, où est-ce qu'ils arrivent, mais à la hauteur d'un enfant... Le décalage est monstrueux. Enfin, la petite fille raconte donc comment son quotidien, c'était vraiment le bruit de Hanoï, les trottoirs, sa nourrice, la chaleur. Et en fait, en arrivant en France, elle n'est pas habituée à ce qu'elle va découvrir, au climat froid, tous les nouveaux détails, même les vêtements de ses camarades qui portent des cols roulés, des choses qu'elle n'avait pas vues.
La nourriture aussi.
La nourriture.
Qui est différente.
Qui est différente. La purée, toutes ces choses qui n'existent pas au Vietnam. Et en fait, je raconte ce que ça peut être pour un enfant d'être extrait d'un pays et d'arriver dans un autre.
Extrait ou arraché?
Extrait ou arraché, en tout cas, ne pas comprendre exactement ce qui lui arrive, en fait.
Et la grande difficulté, le drame aussi de cette petite fille, c'est que forcément cet exil qui lui est imposé, cet arrachement d'un Vietnam exotique,
oui,
que l'on découvre aussi à différentes périodes tout au long de votre roman, c'est, on ne peut pas dire tout à fait une petite fresque, en tout cas, d'un Vietnam qui se modernise, qui évolue, lui qui a connu les soubresauts de l'histoire, des affrontements idéologiques entre le Nord et le Sud, les guerres, hein, l'invasion des Japonais, ensuite la guerre d'Indochine, rappelons-le aussi,
c'est
pour
ça,
nous, Français, de 46 à 54, et puis ensuite les Américains. Et je revoyais d'ailleurs Lynn il y a quelques jours, en cherchant quelques musiques en illustration, oui, à notre entretien, je suis tombé sur un titre de Yves Mourouzi, mais c'est Paul Alcasso, c'était 19.
Ah,
et c'était effectivement le rappel que les soldats américains avaient une moyenne d'âge de 19 ans au Vietnam.
Oui.
Et il y a notamment des images de bombes, puisque vous parlez de, je crois, 7 millions de tonnes de bombes,
oui,
qui,
oui,
ont,
oui,
été déversées sur le Vietnam. Et on voit ces bombardements sur ce pays, cette forêt luxuriante,
oui,
qui cachait peut-être des petits villages là d'où vos ancêtres viennent, en fait.
Mais...
Et c'est terrible, en fait, cette histoire du Vietnam aussi.
C'est ça, et l'histoire que je raconte, c'est pas, en fait, elle, c'est pas l'histoire telle qu'on la trouve dans les manuels, c'est vraiment l'histoire vue de, du point de vue de cette petite famille qui était la mienne et qui habitait vraiment dans un village à côté de Hanoï, donc dans les rizières. Et c'est quelque chose que mon grand-père m'a raconté assez récemment, dont je n'étais pas tellement au courant avant. Mais c'est vrai que c'était un quotidien où il y avait des bombes qui tombaient. Donc ma grand-mère avait fabriqué une petite cabane où ma mère pouvait aller se cacher si jamais une bombe explosait à côté. Et voilà, c'était un quotidien avec des tickets de rationnement. C'était quelque chose de à la fois difficile, mais de quotidien. Donc en fait, quelque chose d'habituel pour eux.
En tout cas, il y a un vrai courage, à la fois des femmes. Je disais à mon amie Evelyne,
oui,
Philippe, organisatrice du Club des écrivains de Bourgogne, que ce roman pouvait peut-être beaucoup plus toucher les femmes que les hommes. Lynn, est-ce que vous avez senti des appréciations, des approches différentes selon que le lecteur était féminin ou masculin ?
Oui, je pense que j'ai déjà eu beaucoup plus de retours de femmes. C'est un livre qui s'appelle Les os des filles, donc dès le titre, ça s'adresse à tout le monde, bien sûr, mais c'est vraiment sur la filiation maternelle, sur ce que signifie de porter la vie, de donner la vie, la relation avec la mère. Donc c'est un livre de filles et de mères, c'est un livre sur la maman. Donc c'est sûr que j'ai eu beaucoup de retours féminins, j'ai envie de dire, ou en tout cas, même si c'était des hommes qui me parlaient soit de leur fille, soit de leur mère. Donc c'est vraiment ça le thème du livre. Donc effectivement, c'est un livre qui s'adresse aux femmes.
Avez-vous rencontré des lecteurs d'origine vietnamienne ou comme vous, franco-vietnamien,
oui,
qui auraient ressenti des choses très personnelles à travers l'histoire de votre,
oui,
de votre grand-mère, de vos tantes, de votre mère, l'histoire familiale plus.
J'ai eu quelques retours de personnes qui notamment avaient grandi comme moi pendant 10 ans ou leur enfance au Vietnam et puis étaient parties parce que c'est un pays où... C'était pas mon époque à moi, mais juste avant, il y avait les Boat People et tout. Donc, il y a une histoire assez lourde, au final, dans ce pays. Et je la découvre, en fait, petit à petit, parce que c'est des choses dont les gens ne parlent pas forcément.
C'est Lynn Papin qui nous accompagne ce matin dans Wagon Livre. Elle est l'auteur d'un troisième roman qui est disponible actuellement,
oui,
en librairie. Ce roman a pour titre Les eaux des filles. Lynn, si vous le voulez bien, on fait une petite pause musicale et on poursuit notre,
d'accord,
conversation juste après la petite virgule que l'on offre à nos auditrices et auditeurs. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radio.
They fought the longest war in American history. They fought the longest war in American history. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. 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 19.
The heaviest fighting of the past 2 weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon.
I wasn't really sure what was going on. exposed to hostile fire almost every day.
'Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est une jeune romancière qui est avec nous à bord de Wagon Livre dans votre émission littéraire sur Radion. C'est Lynn Papin pour Les Eaux des Filles, son tout dernier roman, troisième roman. Et le chiffre 3 aurait apparemment son importance aussi dans le roman. Je crois qu'il y a une petite page consacrée au chiffre 3. Et Lynn, justement, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à nous lire les tout premiers paragraphes de votre roman, s'il vous plaît.
Alors, on enterre les gens dans une tombe à leur taille pendant 3 ans au Vietnam. Puis, ce délai passé, la chair évaporée, on transvase dans un coffret plus chétif ce qu'il reste du corps, les os. Les cimetières sont donc faits de petits coffrets d'os. Ce sont eux qui demeurent, singuliers. Le premier cercueil est temporaire, public. Il ne sert qu'à désosser et reçoit tous les 3 ans différents morts. C'est un lieu de repos passager. Ensuite, dans l'unique boîte, il n'y aura plus que les os propres, comme si la chair importait peu, modifiable telle qu'elle est le long d'une vie, tantôt fraîche, tendre, lisse, tantôt ridée, malade, tavelée, tantôt douce, serrée, tantôt rêche, distendue, tantôt cisaillée, tantôt... À la fin, il n'y a plus que les os qui s'entrechoquent. Les sentiments de la chair, dégoulinants, sont passés. l'émotion terrestre est partie. Ne reste plus que les sentiments des eaux, essentiels. Nous finissons tous ainsi, après tout, et c'est doux. C'est doux parce que c'est commun. Il y aura eu bien des injustices, bien des secousses, bien des dangers. Il y aura eu des joies, des rires, des peurs, des amours, des haines, des ressentiments, des passions. Il y aura eu des accidents, des voyages, des crises, des maladies. Nous aurons été chacun, à notre manière, déformés par la vie. Il restera les os des humains, ce que nous avons été au minimum, ce que nous avons tenté d'être au maximum. Maintenant, j'ai compris jusqu'à quel point il faut descendre pour aimer sans retour et pardonner sans regard, jusqu'à cette ultime poche d'os.
Merci, Lynn Papin, d'avoir lu donc les premiers paragraphes de votre dernier roman. Certaines duretés, alors ce thème des eaux, dureté du titre, les eaux des filles, ça interpelle, cela surprend. Je crois que vous avez commencé à donner un début d'explication précédemment, mais on y reviendra sans doute et je voudrais qu'on y revienne même dès à présent. Les eaux, on a bien compris, ce sont les dernières traces terrestres en fait des défunts. Et finalement, c'est ce rite funéraire au Vietnam, c'est quelque chose que vous avez vécu, petite fille, ou qui vous a été raconté, et pourquoi être partie alors que le chapitre, le tout premier chapitre, a pour titre paix.
Oui.
Pourquoi être partie? Enfin, la paix, oui, la paix des morts.
Parce qu'en fait, mon livre se découpe finalement en trois grandes parties, que j'appelle Première Guerre, Deuxième Guerre et Troisième Guerre. La Première Guerre est la guerre d'Indochine, et c'est l'époque, je commence à raconter la jeunesse de ma grand-mère, donc qui vivait dans ce petit village pendant cette guerre, la manière dont elle rencontre mon grand-père, puis donne naissance à ses trois filles. La Seconde Guerre, c'est la guerre du Vietnam, donc contre les Américains, et c'est l'enfance de ma mère qui grandit pendant cette guerre dans ce même village, et ensuite son arrivée à Hanoï, sa rencontre avec mon père. Et enfin, la Troisième Guerre, c'est une guerre non plus extérieure, mais une guerre intérieure. Et c'est la guerre de la petite fille, donc de Lynn dans le livre, qui, arrivée en France, donc se laisse mourir, n'a plus envie de vivre, et raconte comment, à l'intérieur de son corps, elle a l'impression qu'il y a des armées qui se font la guerre. Et donc, le livre commence par paix, parce que c'est finalement, malgré toutes ces guerres que je raconte, c'est un livre de réconciliation. C'est un livre que j'écris en paix et pour venir à la paix. Et il commence par cet enterrement, en fait, ce rite funéraire et ce coffret d'os, parce que c'est un livre sur la mort, autant que sur la vie, finalement. C'est un livre qui interroge, en fait, la mort et la naissance, qui interroge le parcours d'une vie, de qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants et qu'est-ce qui nous donne envie de vivre finalement et qu'est-ce qu'on va laisser après notre mort. C'est un thème qui peut paraître un peu vaste, mais c'est vraiment le thème de mon livre.
Alors il est même question de femmes osseuses, bon, qui renvoient aussi aux périodes où l'on avait faim, supportait le rationnement ou les restrictions ou l'absence totale de nourriture.
Voilà, les os sont au-delà des os après la mort et le jeu de mots sur les os, perdre les os, donc les os des femmes, c'est aussi un thème qui est présent par effectivement le quotidien très maigre avec des tickets de rationnement, donc où au Vietnam les gens n'avaient que la peau sur les os, et ensuite l'arrivée en France, la petite fille qui arrête de se nourrir, qui donc se laisse mourir et devient très maigre au point qu'elle est hospitalisée. Et là, encore une fois, il y a ce thème des os et de la maigreur. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Les os des filles ».
Et quelque part, vous reconstituez une histoire familiale un peu comme un squelette, enfin, si on veut reprendre
exactement.
Ce n'est pas une mosaïque, là, c'est un squelette familial auquel vous essayez de redonner une consistance, et une unité.
C'est ça, et c'est une manière de... Parfois, quand on va chez l'ostéopathe, par exemple, on a une manière de marcher qui fait que, par exemple, notre bassin est décalé, ou les zones... C'est jamais pareil d'une personne à l'autre, selon les habitudes ou selon vraiment même des douleurs psychologiques parfois, où les os peuvent se décaler. Et pour moi, écrire ce texte, c'était une manière comme quand on va chez l'ostéopathe, de comprendre pourquoi ça s'était décalé de cette manière-là et un peu de remettre tout ça à l'endroit.
Bon, puis l'os se casse, il y a des fractures.
Il y a des fractures aussi parfois, oui.
Alors, il y a un personnage important, c'est celui de la grand-mère,
oui.
Donc c'est Ba.
C'est ça.
Et puis il y a aussi un autre personnage, c'est la vie d'Hanoï elle-même, est presque oui. un personnage. D'ailleurs, vous en faites une sorte de mère qui vous a porté un peu sur ses oui. épaules aussi. Il y a beaucoup, je dirais, beaucoup d'allégories. Beaucoup d'images dans ce roman. Alors certaines sont parfois un petit peu surprenantes parce qu'elles sont sorties de votre imagination. Peut-être oui. visent-elles aussi à surprendre ou à agiter un peu le lecteur.
Pour la ville de Hanoï, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'avais ressenti enfant. D'autant plus que, comme mon père était français, on vivait avec mes amis étaient des enfants d'expatriés. En fait, on était à l'école étrangère. Et on avait ce sentiment de... C'était la fin de l'embargo et c'était la fin de la guerre. Le Vietnam avait gagné. Et même si c'était un pays pauvre, il y avait vraiment une énergie où les gens étaient fiers, étaient heureux. Les produits américains commençaient à arriver. Et donc il y avait une euphorie dans cette ville à l'époque où nous étions petits. Et nous vivions tous dans la nature, enfin je veux dire, on n'était jamais à la maison, on était tout le temps dehors, à la piscine, entre enfants, et on adorait cette ville comme si c'était une mère. Et ça, je le raconte parce que c'était vraiment une sensation que nous avions tous, hein, d'être heureux d'être là à ce moment de l'histoire, dans cette ville, quoi.
Ce qui est amusant, c'est aussi le rappel du colonisateur français, puisqu'en fait le père qui est amoureux de la vietnamienne, qui est donc un jeune français oui. Agrégé d'histoire, qui voilà. initialement était passionné, je crois, par l'histoire du XVIe siècle, mais qui finalement va être totalement envoûté oui. par l'histoire du Vietnam. Au départ, la famille le regarde quand même comme l'ennemi. Au départ, il y a oui. une désapprobation des parents vietnamiens à l'égard de ce jeune français, qui pourtant... Parle vietnamien.
Ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y avait en fait, pendant la guerre, il y avait beaucoup de soldats qui enlevaient des femmes ou qui se mariaient avec elles, qui les ramenaient en France. Finalement, on ne savait pas trop ce qu'elles devenaient. C'est une époque où on n'avait pas ni Facebook, ni Skype, ni WhatsApp, donc on ne pouvait pas. Quand la personne partait à l'autre bout du monde, on ne la revoyait plus. Enfin, on n'avait aucune nouvelle, donc ça pouvait être très inquiétant. Et c'est vrai qu'au lendemain donc de toutes ces guerres où vraiment il y a eu des histoires de ce genre, même si le jeune français, comme je l'appelle dans mon roman, parlait vietnamien, s'intéressait vraiment au pays et puis n'avait évidemment rien de ce portrait-là, il ne comptait pas du tout enlever la jeune femme, c'est vrai que c'était des questions qui évidemment pouvaient se poser. Et quand à l'époque, une femme partait comme ça en avion, enfin mes grands-parents par exemple n'étaient jamais montés dans un avion, donc tout ça était très obscur pour eux.
La narratrice a un grand frère, si j'ai bien lu. Lui, il est né en France.
Lui est né à Blois, et donc en 1994.
Et vous, Lynn, on sait que vous êtes née à Hanoï, mais est-ce que, comme la narratrice, vous êtes née dans un hôpital miteux de Hanoï ?
Oui, exactement, parce que c'est pour ça que le frère était né à Blois, parce que les hôpitaux à l'époque à Hanoï étaient très, très mal entretenus. C'était vraiment plutôt sale, et c'est pourquoi le jeune français avait préféré donner naissance à... que son fils naisse dans un hôpital propre, quoi.
Et votre date de naissance est identique à celle de
oui,
la narratrice, donc oui. le 30 décembre 1995, oui. dans un hôpital de Noël. Est-ce que je peux vous demander, Lynn Papin,
oui.
de nous lire le passage, non pas de votre naissance, mais enfin, des souvenirs, on a dû vous raconter à quoi, le bébé
c'est ce qu'on
que
m'a...
vous étiez,
c'est
surprenant,
oui.
c'est vraiment sale quand même, l'hôpital d'Hanoï. Vous voulez nous lire le passage, Lynn, peut-être à partir d'ici ?
D'accord. Derrière la grand-mère, derrière les trois sœurs, derrière les contes de guerre et d'amour, te voilà. Tu nais, toi, dans un hôpital miteux où des rats, gros comme des nourrissons, traversent les couloirs la nuit, ombres noires et menaçantes sous les berceaux, prêts à dévorer les bébés qui y dorment. Pendant que les mères se reposent, les pères veillent tour à tour pour pour attaquer au balai les rongeurs affamés et défendre ainsi leur nouveau-né, que les infirmières n'ont d'ailleurs ni habillé ni nettoyé. Tu es dans ton landau, au-dessus de tes rats, enveloppé dans une serviette encore tout ensanglantée. Ton père combat au balai, ta mère dort, et quand ton frère, qui n'a qu'un an, vient à l'hôpital pour voir sa petite sœur, sa première exclamation à la vue du bébé sur lequel, durant la nuit, le placenta et le sang ont séché, est « Nyakwe », une insulte qui signifie « quel pekno ».
Et ça, ça c'est authentique.
Ça, mes parents me l'ont raconté.
Alors, il y a aussi un passage surprenant. Alors, cette fois-ci, vous racontez la mère de la narratrice qui va déposer des urines pour analyse à l'hôpital. Oui. Et les infirmières sont en train d'égorger, de tuer un cochon pour la fête du tête en même temps qu'elles demandent aux patients de poser leurs urines différents récipients d'ailleurs. C'est très surprenant.
Ça paraît absurde, mais ça, c'est ma mère qui me l'a raconté aussi. Et c'est vrai qu'il y avait des pratiques où elle pouvait faire à manger en même temps qu'on accouchait à côté. Et d'ailleurs, on me racontait qu'il y avait un mur, en fait, qui séparait l'hôpital d'un restaurant. Et apparemment, parfois, les infirmières jetaient le placenta par-dessus le mur. Et en fait, les cuisines du restaurant le récupéraient et en faisaient de la cuisine avec, parce que c'était très bon à manger, c'était très bon pour la santé. Donc ça nous paraît, nous, complètement absurde. Mais c'était vraiment une pratique. Voilà, ils prenaient le placenta, ils le jetaient par-dessus le mur. Et
juste le passage, je le lis, Lynn Papin, si vous me le permettez. « Et tandis que son échantillon d'urine rejoignait les autres, bouteille translucide, parmi les bouteilles translucides, une giclure de sang, crachant sur son vêtement pâle une flaque écarlate, dans un craquement d'os, jaillit de sous la table. Le cochon était mort. » Craquement d'os, là encore, même pour la mort du cochon.
Oui.
Sur le bandeau qui entoure votre roman, il y a effectivement... Une photo de famille.
C'est ça.
Cette femme, je pense que c'est Ba.
C'est exactement.
Avec ses trois filles.
Exactement.
Dont une est forcément votre maman.
Celle tout à droite, avec la petite coupe au bol.
Elle a l'air très sérieuse.
Elle est...
Très ailleurs.
Et c'est en fait, sur toutes les photos, elle a un regard qui part vers la droite ou vers la gauche. Et c'est vrai que c'est assez amusant de revoir des photos de famille, d'autant plus que celle-là est une photo qui finalement date des années 80, en fait. Et les photos du Vietnam comme ça, on dirait une photo des années 30, parce qu'ils avaient un décalage de technologie.
Lynn Papin, on marque une nouvelle petite pause, oui. Et puis on se retrouve juste après. Je rappelle que vous êtes l'invité de Wagon Livre pour votre dernier roman qui a pour titre « Les eaux des filles » aux éditions Stock. Et on poursuit la conversation juste après la pause musicale. Merci. Que nous proposons à nos éditrices et auditeurs.
Tellement, je ferai rien de ce que t'attends. je t'aimerai tellement. Ce sera ça l'important. Qui je pourrais être, je m'en fous. T'en sauras rien. Que je rampe, que je sois debout, je regretterai rien. Tous nos ciels sont là pour compris, je les prierai de faire que soit belle ta vie. De loin, je saurai. Oh, je t'aimais trop, je t'aimerais tellement. Je ferai rien de ce que t'attends. Je t'aimais trop, je t'aimerais tellement. Ce sera ça l'important. Oh, je t'aimais trop, je t'aimerais tellement. Je ferai rien de ce que t'attends.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Tout va bien, Lynn ?
Oui, très bien.
C'est Lynn Papa qui nous accompagne aujourd'hui pour les eaux des filles. Alors, on a compris effectivement ce leitmotiv des eaux tout au long du roman, cette reconstruction d'une histoire familiale. On a compris aussi que vous parlez à la fois du Vietnam qui a affronté de nombreuses guerres, de nombreux ennemis intérieurs, un pays meurtri. Une jeune narratrice qui, elle aussi, est meurtrie, qui vit une guerre intérieure. Ça, c'est aussi une image que vous utilisez. Mais en fait, Lynn Papin, j'ai l'impression que l'histoire de votre roman, c'est un beau conte d'amour. C'est l'histoire, la rencontre entre une Viette et un Thé. C'est ça, on dit un Thé?
Oui, c'est ça.
T-A-Y, c'est-à-dire un étranger. Ce jeune Français brillant, d'ailleurs, qui travaille à l'école française d'Extrême-Orient. Et qui a deux enfants avec cette femme. Et puis, une de ses enfants fait maintenant d'autres enfants sous forme de livre pour l'instant. Elle s'appelle Lynn Papin et elle est avec nous devant le micro. Lynn, il y a un personnage central, Bas, la grand-mère, est beaucoup plus importante que la mère. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de pages dithyrambiques sur Bas que sur la mère. D'ailleurs, à un moment, le rapport mère-fille se distend complètement. La mère
c'est
est
ça.
Absente.
À
il y a un manque d'amour. Il y a quelque chose de douloureux tout de même dans cette histoire.
À l'arrivée en France, c'est un livre qui raconte la double culture, le décalage parfois et le déracinement. Puisque effectivement, arrivée en France, la mère s'adapte comme une femme. Elle essaie de trouver du travail, elle passe son permis, elle fait des choses de femme, j'ai envie de dire. Quand elle arrive dans ce nouveau pays, elle en apprend la langue. Et la petite fille, elle, doit s'adapter aussi. Et elle n'a plus le modèle de mère qu'elle avait au Vietnam, puisque forcément, l'arrivée dans un nouveau pays change complètement, peut aussi changer, bouleverser complètement les rapports d'un enfant à sa mère. Et cela passe aussi par la langue, puisque le vietnamien, qui était la langue parlée dans la ville, qui était la langue maternelle, n'est plus du tout parlé en France par l'enfant elle-même aussi, qui ne veut plus parler vietnamien puisqu'elle veut ressembler à ses camarades français. On sait qu'à cet âge-là, on n'a pas du tout envie de paraître différent de nos camarades de classe. Donc c'est finalement un bouleversement. Et je dis que ce décalage se passe sans aucune évidente violence, puisqu'il n'y a pas de, il n'y a pas de violence ou d'événement. C'est des choses qui se passent en filigrane, devant ou derrière, mais qui ne paraissent pas, qu'on ne peut pas définir exactement.
Il y a hommage aussi de la narratrice pour la grand-mère, c'est-à-dire oui. Évidemment c'est la suite un peu biologique de la vie, mais c'est peut-être aussi les histoires des os justement, c'est-à-dire que si Ba n'avait pas existé, ma mère n'aurait pas été mise au monde et je ne serais pas là non plus, donc oui, il y a une continuité un petit peu dans ces vies de femmes en fait.
C'est ça, et c'est ce que disait en fait la grand-mère, elle le disait vraiment parce qu'elle était très proche de sa première petite fille. Et moi, je ne suis pas grand-mère, donc je ne sais pas ce que ça fait, mais c'est vrai qu'on me dit parfois qu'il y a cet effet, qu'il y a un effet parfois très particulier entre la grand-mère et la petite fille, et l'enfant de sa fille, en fait. Et ma grand-mère, qui ne connaissait pas sa date de naissance, puisqu'elle était née pendant la guerre...
Elle est née en 44, hein, c'est
elle
cela.
Elle est née, voilà, et elle ne connaissait pas la date, puisqu'il n'y avait pas de date de naissance. Et en fait, à ma naissance, le 30 décembre, elle a décidé que ce serait aussi son anniversaire, ce qui était un symbole assez fort.
Oui, c'est-à-dire que la naissance de sa petite fille, elle prenait la date de la naissance de sa petite fille comme étant aussi la sienne, voilà. Avec 50 ans ou 51 ans d'écart.
C'est ça. Hein.
On poursuit la conversation juste après la pause musicale. Merci. Que nous proposons à nos éditrices et auditeurs. I keep on falling. I feel good. At times I feel used.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Donc Ba est très importante. On a le sentiment aussi quand même que le départ de sa petite fille avec sa propre fille et ce Français retour en France, ça a été aussi pour elle un arrachement.
Bah, le parcours de cette femme est intéressant puisqu'elle vraiment elle naît à une période de famine. C'était la guerre entre les Japonais et les Vietnamiens. Cette fois, c'était une famine qui avait fait vraiment un million de morts. Enfin, et donc, elle traverse toutes ces guerres successives dans ce village, toutes les guerres successives. Et puis, elle arrive à Hanoï. Elle vit cette période donc, où ce n'est plus la guerre, les produits américains arrivent, le Vietnam s'ouvre. Et puis, elle tient ses filles. Donc partent les unes après les autres, puisqu'il y a une fille qui part en Pologne, l'autre qui part en France, ce qui est quelque chose de complètement ahurissant pour elle, pour une femme qui a vécu dans un village, dans les rizières, qui pensait jamais, surtout dans un pays comme le Vietnam, où vraiment les enfants vivent avec les parents, et c'est les vies de famille ne sont pas éclatées comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui s'est produit après, avec l'ouverture historique, mais ces filles partent, elles se retrouvent seules, et elle découvre Internet et elle tient un blog en fait dans lequel elle poste des articles et elle va à des manifestations.
Elle a une certaine audace, elle est combative. Hein,
oui, et elle découvre Internet et quand elle meurt, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est enterrée dans ce village où elle est née, dans ses rizières. Et à son enterrement, une foule de personnes arrive, donc des punks, des personnes que la famille ne connaît pas, on ne sait pas du tout d'où ils viennent. Et en fait, ils se rendent compte que soudain, ils brandissent une banderole avec le nom du blog. Et c'est donc ce qu'on appelle les followers, en fait, des gens qui la suivaient sur son blog Internet. Donc, ça retrace bien tout le parcours de cette femme. Et,
c'est et l'évolution du pays,
et
également.
Et l'évolution du pays, voilà.
Par la même occasion. Il y a aussi la nourrice, qui est un personnage extrêmement
important
touchant.
Aussi, oui.
Kofai.
Oui, c'est ça.
Alors Kofai aussi, l'amour de la narratrice est presque plus important pour sa nourrice que pour sa mère. D'ailleurs, elle l'appelle même mère, maman.
Oui, parce que c'est une nourrice qui vivait à la maison, qui élevait, qui passait ses journées, qui a habillé la petite fille le matin, qui dormait parfois avec elle la nuit. Et c'était quelqu'un de très aimant et de très important dans la maison. Et le départ en France crée une rupture très violente, puisque la petite fille ne reverra jamais cette nourrice avec qui elle a grandi pendant 10 ans. Et c'est pourquoi elle a un amour maternel aussi pour cette nourrice.
Il y a beaucoup d'arrachement dans ce roman.
Il y a, oui. C'est
de privation, enfin, d'une petite fille à qui on a offert une autre vie,
c'est
peut-être d'autres bonheurs. Mais c'est par la force des choses, il y a tout de même des femmes qui ont été privées de beaucoup de choses.
C'est un roman sur le passé aussi, sur laisser tomber le passé comme si c'était des vêtements, savoir tourner la page en quelque sorte.
Il y a par exemple, j'aimerais que vous nous parliez des casseroles de Hanoï.
Ah oui, les, les casseroles, parce que c'est l'épisode en fait où... là, il y avait des échanges scolaires. Évidemment, c'était un pays communiste, donc les échanges se faisaient forcément avec la Russie. Et en fait, la mère, la seconde sœur H, part en échange en Russie. Et à l'époque, le Vietnam était très pauvre. C'était même difficile d'avoir des casseroles, des sandales. Et il faisait parfois fondre des casseroles pour les revendre. Donc il y avait des magouilles comme ça.
C'est assez amusant, puisqu'on nous dit que les casseroles vietnamiennes prennent feu en même temps que les légumes qu'elles
contiennent. Oui, c'est ça, c'est des casseroles qui n'étaient pas du tout performantes.
Et le code de la route, alors au Vietnam, là aussi, c'est la grande anarchie.
Là oui, c'est la grande anarchie. Et donc quand la maman passe son permis de conduire, en fait, elle demande quelles sont les règles de conduite. Et son professeur lui dit, la règle, c'est tu y vas, tu n'empêches pas. Personne ne t'empêche de passer, tu fonces tout droit.
C'est ta route, tu y roules, voilà. Aucun connard ne doit t'empêcher
de passer.
Lynn, il y a aussi, bien sûr, il y a Hanoï, plus tard il y a la découverte de Paris. On a bien compris que c'est toute une... Alors, est-ce que c'est une tragédie ou c'est un conte qui a mal fini
c'est
Ou qui finit assez bien.
Oui, c'est un conte qui finit bien parce que c'est un livre sur la réconciliation, sur la paix. C'est le premier chapitre.
Mais la réconciliation avec soi et avec soi surtout.
Et avec son histoire, avec sa mère, avec des choses aussi qu'on n'avait pas compris parce qu'on était petit et qu'on comprend maintenant. Et c'est un. Je ne pense pas que ce soit une tragédie. Je pense que c'est finalement l'histoire de plein de gens. C'est une histoire peut-être d'un côté assez exceptionnelle et puis de l'autre assez banale aussi. Et j'ai des lecteurs, par exemple, qui me disent qu'eux, ils ont vécu ce décalage, mais d'une région de France à l'autre, et que pourtant, ils comprenaient très bien ce que... Enfin, ils ressentaient des choses alors que c'était seulement d'une région à l'autre.
Oui, oui, oui.
Donc je pense que c'est... Voilà, c'est une histoire qui peut parler à tout le monde, même si c'est pas des gens qui viennent du Vietnam ou voilà, c'est.
Enfin, je pense, ouais. Oui, oui, tout à fait. On verra que l'histoire de cette petite déracinée entre une maman vietnamienne et un père français qui quitte le Vietnam pour se retrouver en France, on peut comprendre que cela ait pu être un choc et provoquer cette guerre intérieure,
cette dépression.
Si à la fin les choses se pacifient un peu, et que vraisemblablement c'est ce que Lynn Papin a éprouvé, pire ou moindre,
bah, disons de manière que moindre. La première page du livre donc commence, je l'ai lu tout à l'heure, sur l'enterrement, un rite funéraire, la mort, le coffret d'os, et la dernière page se termine, la dernière phrase c'est la vie allait pouvoir recommencer. Donc c'est un livre qui évidemment commence par la douleur et la mort et interroge cette mort, cette douleur, mais se termine par la lumière, la paix et la vie.
Alors, trois beaux mots pour terminer notre entretien. Merci Lynn Papin d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Les eaux des filles. C'est aux éditions Stock et disponible en librairie à lire à la plage, à la maison, tranquillement au jardin. Un grand merci. Lynn Papin. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés. Je leur donne rendez-vous samedi prochain à 11h, toujours sur Radion. Au revoir à toutes et tous.
Merci.